L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusée à 18h. Marre de la pluie, du froid, du gris, marre d'être limité à 20 km à la ronde. On prend la tangente aujourd'hui, direction la plage, les plages vivantes. Eh oui, ce sont des décors de vacances, des théâtres de sport et de loisirs. Ce sont aussi des zones de travail, des espaces naturels. Les plages, on connaît bien dans le Finistère, puisque c'est notre département qui, je crois, a le plus de côtes. Alors certes, pas seulement des plages, mais on en a quand même beaucoup, de toutes sortes. Ça va des petites grèves caillouteuses, un peu vaseuses du fond de la rade, aux vastes étendues de sable fin comme au pays Bigoudin, en passant par les plages de galets, les anses et les criques cachées aux eaux turquoises. Bref, elle valait bien un programme de recherche scientifique. Plage vivante, c'est donc le nom de ce programme. Avec nous, il y a deux des organisatrices d'une première journée d'études sur ces plages qui a eu lieu hier, donc c'est du tout frais. Elles sont aussi bénévoles de Radio Évasion à l'occasion. Quelle chance! Alix Levin, qui est docteur en anthropologie sociale au CNRS et à l'UMR à Mur, et Florence Révélin, qui est aussi docteur en anthropologie mais de l'environnement à l'UBO, à l'UMR à Mur également. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je ne me suis pas trompée dans vos intitulés. Hein.
Bon. C'est très bien.
Alors je vais vous demander, donc Florence plutôt, apparemment, en quoi consiste ce programme Plage Vivante?
Alors Plage Vivante, c'est un observatoire participatif qui s'intéresse en particulier à l'écologie des eaux de plage, et notamment en observant la composition des laisses de mer, c'est-à-dire ce que laisse la mer sur les eaux de plage, c'est cette petite bande qui est composée à la fois d'algues, de restes de coquillages ou d'êtres marins, et parfois aussi de déchets d'origine humaine. Et donc nos collègues écologues s'intéressent à la composition de ces laisses à travers un programme participatif. Donc on a notamment des écoles, mais aussi des citoyens qui peuvent participer à ces programmes d'observation des laisses et de recension sur leur composition.
Ça fait longtemps que c'est lancé, cette partie-là du programme?
Ça a été lancé en 2018. Et donc nous, avec Alix et une autre collègue, Joanne Clavel, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui parce qu'elle est trop loin, elle est à Montpellier.
Oui, mais on l'aura au téléphone la semaine prochaine.
Voilà, c'est ça. Donc on développe un volet qui est centré sur les humanités environnementales. Donc c'est-à-dire qu'on s'intéresse plutôt à la dimension humaine et sociale de ces plages.
Et c'est participatif aussi dans ce cas-là? Est-ce qu'on demande aux gens quelles sont leurs pratiques de la plage?
Eh bien oui, d'une certaine manière, oui, c'est pas participatif de la même manière, mais c'est plutôt qu'on va à la rencontre des acteurs et des usagers qui vont sur ces plages, notamment à travers des enquêtes ethnographiques, c'est-à-dire qu'on va aller à la fois observer, vivre avec eux ces espaces, et puis également les interviewer dans des entretiens semi-dirigés. Donc on rencontre toute la diversité des acteurs qui sont sur ces plages, à la fois nous tous, quoi, quand on y va en tant que juste profiter de la plage, mais aussi leurs gestionnaires ou également des associations qui vont avoir notamment des rôles dans la gestion, dans le nettoyage des plages, par exemple. Je pense à l'association Ansel qui, sur Concarneau, qui s'intéresse donc à cette question de la gestion des déchets sur les plages.
Et le territoire de recherche, exactement, c'est où? Parce que les plages, il y en a partout en France, voire dans le monde.
Alors, pour le programme Plage Vivante, c'est plutôt toute la façade atlantique.
C'est déjà pas mal.
Voilà. Après, nous, notre petit programme Plage Vivante, Humanité Environnementale, on s'intéresse en particulier donc, aux plages de Concarneau et de Tréguin.
Oui, donc c'est quand même, on va dire, c'est quand même presque la zone de radioévasion.
Presque.
De temps en temps, c'est la zone de radio.
Mais on en déborde aussi, on en déborde parce qu'en fait, la nature du travail qu'on mène avec les habitants fait qu'effectivement, on se rapproche de très près d'un lieu de vie bien précis. Et en même temps, on mène aussi des actions à spectre plus large. Et notamment, on travaille auprès des gestionnaires du littoral et des plages.
Donc, par exemple, c'est quoi? Conservatoire du littoral?
Alors, ça peut être le conservatoire du littoral, ça peut être des gardes du littoral qui sont effectivement employés par les collectivités locales lorsqu'il y a des terrains conservatoires sur une commune. Par exemple, ça peut être des collectivités gestionnaires, effectivement, et ça peut être des associations aussi. Donc on a une très grande diversité d'acteurs gestionnaires et ceux-là, on travaille avec eux plutôt à l'échelle de l'ensemble du littoral atlantique, Manche, Mer du Nord. avec un partenariat qu'on a noué avec l'association des gestionnaires d'espaces protégés littoraux qui s'appelle Rivages de France.
Et il n'y a pas d'équivalent en Méditerranée? Parce que ça, j'imagine que ça serait assez différent. Enfin, peut-être pas d'ailleurs, mais...
Peut-être, alors déjà, il y a une première remarque à faire, sans doute, qui est une remarque plus d'écologie. C'est-à-dire que l'entrée dans l'Observatoire Plage Vivante, ça a été d'entrer par cet écosystème assez singulier qu'est la laisse de mer, évidemment.
Ah oui, il n'y en a pas en Méditerranée.
Elle est très liée au mouvement des marées. Et donc, on ne peut pas appliquer les mêmes protocoles, ni de recherche, ni d'implication de la population sur les rivages méditerranéens et sur les rivages qui bordent l'Atlantique au sens large, quoi. Donc effectivement, c'est la différence essentielle, c'est qu'il n'y a pas de marée. Mais il y a des partenariats déjà qui ont été noués avec des collègues et des acteurs de la côte méditerranéenne et des réflexions sur la façon dont justement ces questions pourraient être travaillées un petit peu différemment dans ce contexte méditerranéen.
Parce que le volet anthropologique dont vous parlez, enfin que vous dirigez, en fait, il est plus récent que le volet écologique. Date de quand celui-là?
On a commencé en 2019, donc non, ça s'inscrit aussi dans la phase de lancement du projet. Ouais.
C'était prévu dès le départ, mais nous, les anthropologues, on est un peu lentes.
Au démarrage, après, une fois que vous êtes lancée, c'est... Voilà.
Voilà. Non, mais c'était un volet du programme Plage Vivante qui était reconnu dès le départ. Voilà. Donc après, comme on procède par enquête longue, et donc il y a le volet plus d'enquête anthropologique, mais il y a également un volet de recherche en esthétique environnementale, dont on parlera très certainement la semaine prochaine. Tout ce travail-là d'enquête prend du temps, parce qu'il faut collecter du matériau très patiemment auprès des habitants, à différentes saisons, etc. Donc voilà, on commence tout juste à sortir quelques résultats.
Oui, parce que la plage, nous, c'est vrai que l'image la plus commune, c'est la plage en été en maillot de bain, mais là, on est vraiment sur la plage à l'année, hein, c'est...
Ah oui, c'est ça. Et la plage qui peut être complètement déserte ou complètement surpeuplée, très chargée en matériaux ou au contraire complètement dénudée et très grasse et très maigre, suivant les saisons dont on parle.
Ah oui, une plage grasse et une plage maigre, c'est des concepts intéressants. Alors hier, la première journée d'études, c'était la toute première ou s'il y avait des journées d'études les années précédentes ou non là,
C'était la première sur ce volet.
D'accord. Alors c'était quoi? Quels étaient les thèmes abordés? Quels ont été les résultats apportés?
Alors donc, sur cette journée d'études, donc, on était plutôt donc, sur ce volet humanité environnementale et on peut dire qu'on avait en gros... Trois grandes approches qui se sont croisées et conjuguées autour de la journée. On avait une première approche qui était plutôt historique, hein, sur l'histoire des plages, à la fois sur la façade atlantique, donc en Bretagne et Vendée, et aussi sur la baie de Los Angeles. Donc c'était avec Johan Vincent, et, qui est assez connu pour ses travaux en Bretagne, qui est historien, et Elsa de Vienne, qui a travaillé donc sur la baie de Los Angeles avec sur l'histoire de la baie de Los Angeles avec une approche assez originale en regardant le rôle qu'a joué la série Alerte à Malibu dans la construction d'une image des plages angelines. Après, on a eu un volet qui était plutôt anthropologique et esthétique environnementale avec donc un collègue américain, Stéphane Elmreich, qui est anthropologue au MIT aux États-Unis, qui a également travaillé en Californie, mais lui, il s'est plutôt intéressé à une autre chose qui arrive sur les plages, à savoir les vagues. Donc voilà, on a une présentation très originale sur ce sujet. Et Clara Breteau, qui elle a travaillé en baie de Seine, entre Étretat, il me semble, et Gatteville, c'est ça? Voilà, qui a mené à une enquête ethnographique et en esthétique environnementale sur la plage comme lieu d'élaboration d'un imaginaire sensible à la mer. Et enfin, le troisième volet était plus axé sur ce que nous apporte la recherche en art et en particulier la recherche en danse de ces interactions entre les humains et les non-humains sur les plages. Donc, c'est-à-dire comment la danse construit la plage d'une certaine manière et comment la plage va avoir réciproquement une influence sur la chorégraphie. Donc deux chercheuses donc, qui sont Victoria Hunter, qui est une chercheuse anglaise à l'université de Chichester, et Julie Perrin, qui est à l'université Paris 8 en France.
Oui, donc finalement, c'est quand même international, ces recherches, même si dans le programme Plage Vivante, c'est local, on va dire, enfin, français. Après, dans les journées d'études, vous pouvez vous permettre d'aller voir ailleurs, quoi.
Oui, et justement, bon, pour des chercheurs, c'est assez commun, quand ils organisent un colloque, d'essayer de repérer quelles sont les communautés de collègues à l'échelle mondiale, hein, qui peuvent s'intéresser à ces questions-là. C'était très important pour nous d'avoir cette dimension internationale parce que ce qu'on cherche à faire dans ce travail et ces journées d'études des vies avec des plages, c'est d'ouvrir ces connaissances et ces mises en perspective à un public extrêmement varié. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, autant on avait dans les intervenants de cette première journée principalement des universitaires, des personnes issues du monde académique, mais dans le public, alors là, il y avait des danseurs, il y avait des chorégraphes, il y avait effectivement des étudiants de toutes disciplines que ça peut intéresser. Il y avait des gestionnaires, il y avait des animateurs nature, il y avait des gens un petit peu de tous horizons, des élus. Voilà, un peu de tout. Et c'était un peu ce qu'on visait, c'est-à-dire des interventions qui permettent, justement par l'introduction des approches artistiques, notamment chorégraphiques, qui permettent à chacun de trouver un écho dans ce qui a été dit vis-à-vis de sa propre expérience. Parce que notre travail sur le terrain avec Florence en fait, et Joanne montre que les attachements à la plage sont souvent très très forts. Ils sont multiples, ça remue beaucoup de choses, c'est un sujet auquel les gens tiennent. Et il nous semble que ces paroles qui ont été énoncées hier, elles parlaient à tout le monde, en fait.
Donc, vous avez commencé à avoir des résultats dans vos propres enquêtes anthropologiques. Qu'est-ce qui est ressorti, alors que, à part que c'est un lien fort à la plage, on le sait, nous, dans le Finistère, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre
hein ? On le sait, on le sent. Alors, la première chose moi, que je peux évoquer, parce que c'est plutôt mon rôle dans ce programme de recherche, donc moi je travaille sur les régulations et sur la gestion des plages, et notamment sur la transformation des modes de gestion des plages au fil du temps.
Ah, intéressant.
Avec des terrains bretons et principalement finistériens. Donc on a commencé au cours des deux premières années là, du programme à essayer de repérer déjà la diversité des pratiques, parce que c'est des pratiques qui sont extrêmement différentes, actuelles, d'une plage à l'autre.
Mm-hmm. Hein, ah ouais.
Ben oui. Alors évidemment, ça dépend, on peut se dire, ça dépend des communes, de la façon dont le maire conçoit le développement de sa commune, etc. etc.
Parce que c'est mais quand même très dévolu aux communes, ce n'est pas des questions de communauté de communes, par exemple, la plage, ça
alors,
reste...
Ça dépend, le... ça dépend. Ah ouais. Alors, je dirais qu'il peut y avoir des transferts de compétences à des communautés de communes, et notamment en ce qui concerne la mutualisation des moyens de ramassage, parce que c'est très lourd, ça implique souvent des machines coûteuses, etc. Et ça peut être, quand on a des communautés de communes ou des communes qui ont un gros linéaire côtier et une petite population, une charge très significative. Alors, après, là-dessus peuvent se greffer des problématiques spécifiques. On peut penser, par exemple, à quelque chose que moi, je connais bien et dont j'avais parlé une fois où j'étais venue vous voir déjà, qui sont les algues vertes, où là, il y a des obligations spécifiques de ramassage et donc une intensité de ramassage qui peut être très importante et qu'une commune de base peut difficilement supporter, quoi. Donc, on a des contextes où, effectivement, ce sont les communautés de communes qui interviennent. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est qu'il y a aussi une spécialisation de l'espace. C'est-à-dire que sur une même commune, il peut y avoir des plages qui sont intensivement, alors je vais mettre des guillemets là, nettoyées.
Réputées touristiques, en fait,
et
voilà.
C'est-à-dire dévolues historiquement à un usage, à une fréquentation touristique qui est réputée incompatible avec la présence d'un certain nombre de laisses de mer, notamment sur la plage.
Ah oui, la laisse de mer reste perçue comme quelque chose de sale.
Dans un certain nombre de cas, oui. Et donc, sur ces mêmes communes, on peut trouver des plages intensivement ramassées, tamisées, criblées, etc. Et puis, d'autres plages dont le caractère plus naturel, plus sauvage est reconnu. Et c'est notamment des plages, souvent, qui font l'objet d'un statut de protection.
Mmh. En zone Natura 2000
par exemple. Voilà. Mmh. Mais alors, voilà. Même sur ces espaces qu'on connaît tous, qui sont intensivement gérés, très anthropisés comme ça, il y a des évolutions, il y a des transformations sur les 10-15 dernières années qui sont importantes.
Voilà. Alors,
quelles sont-elles ?
Ouais.
On peut appeler ça, on peut appeler ça l'écologisation de la gestion, qui est très progressive, très variable.
Wow.
C'est-à-dire la prise en compte de plus en plus de la naturalité de ces espaces. Et le fait qu'ils servent d'habitat à un certain nombre d'espèces. Alors, d'espèces qu'on adore, qui sont emblématiques, qui sont bien visibles. Le petit gravelot, le pipite, des espèces comme ça.
Donc, des oiseaux plutôt.
Voilà, plutôt des oiseaux. Mais aussi à une biodiversité qui est peut-être moins repérable ou moins appréciée. Et notamment, on peut penser à toute la microfaune qui se niche dans les algues en décomposition.
Les petites puces qui sautent partout.
Donc voilà, donc il y a une évolution des pratiques de gestion qui est sensible à partir du milieu des années 2000 et d'autres conceptions, du coup, du vivant légitime sur ces plages qui émergent avec des dispositifs de protection, mais aussi des acteurs nouveaux de la gestion qui sont de plus en plus sensibles au traitement qui est réservé à la plage. Néanmoins, c'est conflictuel.
Oui, c'est ça.
Et voilà, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une plage propre ? Ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde.
C'est comme un jardin propre.
Une agriculture, une parcelle agricole propre, c'est pareil.
C'est ça, c'est pareil. Pas pareil.
Voilà. Donc, on l'a vu, par exemple, dans des collectivités qui essayaient de justement transformer un petit peu leur mode de gestion pour les rendre moins intensifs, moins intrusifs pour les milieux, moins perturbatrices pour un certain nombre d'espèces. Il y a des réactions aussi dans la population. Lorsqu'il y a des gros échouages, par exemple, d'algues, ça peut arriver.
Alors, c'est la question que j'allais poser. Là, c'est plutôt le point de vue des gestionnaires et le point de vue des usagers de la plage. Vous avez pu le tester ? C'est Florence Révélin ?
Alors, non, c'est le collectif.
Ouais,
hein.
D'accord.
Voilà, mais oui, effectivement, donc on s'intéresse aux différents usagers. Donc déjà, la première chose qu'on remarque, c'est le côté saisonal, hein, avec une abondance de fréquentation en été à certains horaires de la journée sur certaines plages, d'ailleurs, plus que pour certains, les usages ne sont pas tous les mêmes sur les différentes plages.
Il y a des prototypes, c'est ça, de plages très...
Oui, c'est ouais. Ça. Il y a une typologie de plages avec des formes de fréquentation et des pratiques qui vont varier en fonction à la fois de l'histoire de ces plages et puis de leur morphologie aussi, de leur accessibilité. L'exemple le plus évident, c'est la plage familiale, hein, facilement accessible. Donc, si on y va après l'heure de la sieste des enfants vers 16 heures, voilà, on va rencontrer plein de monde qui va jouer avec des enfants dans le sable, etc.
C'est celle où on peut se garer. En gros, il y a du sable.
C'est exactement ça.
Qui est longue, c'est de préférence.
Qui est longue, où on a de la place, où on va pouvoir être à une distance raisonnable des autres groupes, hein, de personnes.
Abriter du vent, de préférence.
Ah voilà. Oui, abriter du vent. Oh là, ça, c'est un luxe, là.
Voilà, donc c'est ce qu'on a observé avec l'aide de plusieurs stagiaires, Axel Robin notamment, Chiara Infantino et Rosane Cosotti. Voilà, donc on a été un peu documenter la diversité de ces usages sur plusieurs plages de Concarneau et de Tréguin. Et notamment en s'intéressant à la laisse de mer, hein, la manière dont les personnes qui fréquentent ces plages perçoivent ou interagissent avec ces laisses, ou au contraire, est-ce qu'elles les évitent ? Est-ce qu'on évite les échouages, par exemple, les moments où il y a des échouages plus massifs, hein, on voit que ça pose des problèmes à certaines personnes qui préfèrent éviter ces zones-là et qui vont aller choisir d'autres plages où on a un accès plus au sable.
Donc ah oui, carrément, il y a fuite de la plage. Quoi. Oui.
Alors, il n'y a pas fuite de la plage, mais il y a fuite de ces moments où la plage est plus difficilement accessible, où on a plus d'algues. Mm-hmm. Enfin, plus de laisse de mer.
De laisse de mer, oui.
Voilà. Et puis, une des choses qui est apparue, c'est évidemment cet attachement fort que Alix a déjà décrit tout à l'heure. Avec notamment dans le travail de Chiara, par exemple, Chiara Infantino, l'attachement à ce caractère très changeant de la plage, en fait, hein, ce qui fait que les personnes apprécient vraiment ce paysage, c'est le fait qu'on vienne à n'importe quel moment de la journée ou différents journées de la semaine, on va toujours avoir un paysage différent en fonction de la marée, en fonction de ses échouages, en fonction de la météo.
Ah oui, c'est là que ça serait peut-être différent si on avait les mêmes études en Méditerranée.
Probablement, effectivement, qu'on aurait moins cette dimension liée à la diversité, hein, l'appréciation de la diversité, ouais, du caractère changeant.
Et à part la laisse de mer, est-ce que vous avez étudié les interactions avec, je dirais, les petits animaux ? Enfin, c'est vrai qu'il y a tout ce qui est pêcher dans les mares ou s'amuser avec les étoiles de mer ou... Ça, c'est... Ouais.
Alors ça, c'est une dimension qui est très présente dans les recherches que coordonne Joanne Clavel, parce que y a l'une des problématiques auxquelles on s'attelle dans le collectif, c'est de voir, de construire le rapport à la plage, de voir comment se construit le rapport à la plage, à la fois par le regard, mais également par l'ensemble des perceptions qui mobilisent à la fois le toucher, à la fois un ensemble de pratiques. Donc on essaye d'observer de façon très fine les pratiques des gens. Et évidemment, on pense tout de suite aux enfants et à la façon qu'ils ont de trifouiller.
Ils ont une pratique vraiment sensorielle de la plage.
Voilà,
ça, c'est
voilà.
100%.
Ouais. Voilà. Et donc, ça, c'est sans doute ce qui nous attend plus pour cette année ou l'année suivante. Mais il y avait beaucoup de travaux hier lors de la journée d'études qui prenaient appui sur cette dimensions. Je pense notamment aux travaux qu'a présenté Clara Breteau sur la baie de Seine, où elle montrait à quel point il y a une diversité de sens qui sont mobilisés dans cet espace qui est celui de l'estran, hein, si on ne retient pas ce vocabulaire de plage qui est plutôt associé à une pratique de loisir.
Voilà. Oui, c'est vrai. Ouais.
Mais oui. Mm-hmm. Donc, sur l'estran, en fait, il y a une intensité, une diversité des formes de vie. Il y a plein de motifs, il y a plein de textures, il y a plein de réactions étranges liées à la présence-absence de l'eau qui avance, se retire, etc. Donc, des ondulations, des mouvements de tous ordres qui sont très propices à l'interaction avec une diversité de vivants, en fait. Hein. Voilà. Donc, on peut penser à tout ce qui concerne la pêche à pied, très amateur et très exploratoire des enfants, jusqu'à la plus professionnelle. Clara présentait, par exemple, hier, le cas d'un pêcheur à pied qui était non-voyant, et la façon dont lui explorait la grève, pratiquement couché, dans certaines circonstances, en se guidant au son et à la main, bien sûr. Donc voilà, on avait des exemples comme ça. Et évidemment, tout le travail que font les danseurs et les danseuses qui investissent cet espace-là est fondé justement sur cette dimension multisensorielle. En fait.
Et est-ce que vous, dans votre programme, il y aura l'aspect plus graphique justement? Parce qu'en fait, on a fait une émission récemment sur les mandalas géants qui se pratiquent sur la plage et j'ai l'impression que ça commence à devenir un phénomène. Alors, est-ce que ça entrera dans le programme, ça, du land art à la plage, quoi? Enfin, quelque part,
alors,
c'est ça.
C'était, on n'avait pas de land artiste invité directement à intervenir. Par contre, on avait essayé de collecter, on avait fait un petit exercice de collectage de toutes ces œuvres qui se déploient sur la plage et qui sont extrêmement nombreuses et variées. Et de les projeter dans les moments un peu plus doux, on va dire, de la journée, un peu moins intense, pour les donner à voir. Mais c'est vrai qu'on peut constater, quand on s'intéresse à ce sujet-là, la très grande diversité des œuvres graphiques qui sont construites sur la plage. Alors, il y en a qui relèvent complètement de l'art brut. Hein. Il y a beaucoup de messages qui sont écrits sur les plages. Et puis, il y a des choses beaucoup plus construites dans le cadre d'activités avec des enfants, d'activités encadrées, mais également des gestes plus solitaires ou voilà, moins prédéterminés aussi, qui peuvent s'observer, c'est vrai. C'est très, très stimulant, en fait, comme espace.
Et sur l'aspect social, parce qu'en fait, surtout alors depuis le confinement, peut-être que la plage nous a manqué pour le contact avec la nature, c'est sûr, mais peut-être aussi parce qu'on y rencontre des gens et que c'est une sorte de parc pour nous, les Finistériens. Enfin, qui est Florence?
Oui, alors évidemment, c'est une question qui a été abordée par plusieurs des intervenants. Hein. C'est cette privation d'accès à la plage. Donc déjà, ce que ça met en lumière en particulier, c'est cet attachement très fort qu'on a dans nos sociétés à aller sur la plage et à vivre cet espace. Et on le voyait aussi bien dans les retours qu'on pouvait avoir ici, en tout cas en France, et puis aussi dans le travail qu'Elsa a présenté avec les plages de la baie de Los Angeles, où là, il y avait des controverses très fortes, où les populations revendiquaient le droit d'accès à la plage comme un droit inaliénable. Et donc, on avait des controverses très, très importantes, notamment dans les communautés de surfeurs. Qui se sont organisés pour protester contre cette privation. Et je pense qu'on l'a vu aussi simplement là au moment du déconfinement, enfin en tout cas premier déconfinement, et là ce déconfinement progressif, cette nouvelle limite des 20 km, où une des premières choses ici que les gens ont fait, moi c'est ce que j'ai fait, elle avait fait la même chose. Le premier matin, nous sommes allés à la plage directement.
C'est ça. Est-ce qu'on peut déjà, on vérifiait que dans ces 20 km, on avait accès à la plage.
Voilà.
C'était le cas. Pas oui. Pour tout le monde, malheureusement, d'ailleurs. Mais
et peut-être pour compléter l'éclairage qu'apporte Florence, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que les intervenants ont souligné hier, et moi je constate la même chose, c'est qu'en fait, les interdictions d'accès à la plage, qu'il s'agisse d'interdiction de baignade ou d'interdiction d'accès à la plage même, c'est pas nouveau.
Non, c'est vrai, c'est régulier.
Il y en a eu plein, il y en a eu plein, et depuis assez longtemps en fait. Hein. Donc, et notamment dans des contextes de pollution bactério, dans différents contextes d'interdiction de pêche à pied ou autres, ou de dangers liés à des échouages d'hydrocarbures ou des choses comme ça. Donc, il y a eu plein d'occurrences, et notamment liées au fait que les plages ont été très exposées à des fortes pollutions. Entre les années 50 et 80-90, c'était extrêmement fréquent. On a un petit peu perdu la mémoire de cela. Et c'est pas forcément les mêmes acteurs qui se mobilisent aujourd'hui. Et c'est pour ça que Florence a mentionné les communautés de surfeurs, de sports de glisse, qui ont une autre lecture de cela et qui problématisent un petit peu différemment cette question de l'accès à la plage comme participant de leur épanouissement et d'une vision très, qu'on pourrait appeler holistique, de la santé, c'est-à-dire santé du corps, santé de l'esprit, appréhendée dans un même mouvement. Et donc voilà, c'est une histoire longue, hein, cette histoire de l'accès. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est moins accepté, moins toléré, ou en tout cas, il y a une parole plus forte qui s'exprime de revendication au sujet de l'accès aux plages aujourd'hui.
Alors, on nous reste une minute à peu près pour parler de la prochaine journée d'études qui aura lieu en mars, le 30 mars. Qu'est-ce que ça sera le programme ?
Alors, on a conçu le programme du 30 mars comme étant très complémentaire de celui de la première journée. Donc, on garde un peu la même formule qui est de croiser des regards à la fois de chercheurs, mais aussi de praticiens qui seront extrêmement présents sur cette journée du 30 mars et des regards d'artistes. Donc, on a une journée qui est organisée donc, en partenariat avec Rivage de France et qui s'appelle « Vers une valorisation écologique des plages, expérience, gestion, savoir » avec des tables rondes, des visites de terrain, on espère en faire une ou deux.
Espérons.
Ce serait dommage, quand même, oui. Voilà, mais on espère que le 30 mars, on sera un petit peu tiré d'affaire, soyons optimistes. Des projections de films. Donc la première table ronde, elle discutera la gestion des plages, où on en est aujourd'hui. Est-ce qu'on est vraiment passé à autre chose ou pas ? La deuxième table ronde, elle parlera de culture sur les plages, culture scientifique, mais aussi culture artistique. Donc les expériences de collaboration entre gestionnaires et acteurs du monde de la culture. Et la troisième, on essaiera de voir si on va vers une gouvernance plus partagée de ces espaces-là que sont les estrans.
Et la semaine prochaine, on retournera à la plage pour explorer justement l'aspect sensoriel plutôt. Merci à toutes les deux. À bientôt.
À bientôt. Merci.
À bientôt.